Une émission présentée par Gérald.
Eh bien, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. En ce 11 mars 2015, nous sommes en compagnie de Romain. Je sais pas ce qu'il nous fait, Bernard, il s'agite dans son vocal. Romain est là pour le 98e numéro de Hétéroclite. Et à mes côtés, ma petite Lolo qui est fraîchement débarquée. Nous en parlions juste à l'instant de Big Apple. Elle n'est pas restée.
It was amazing. Non, je
n'ai pas restée. Ouais, s'il n'y avait pas eu pluriel gay animé, tu serais resté là-bas.
Ah bah oui, bien sûr.
On était sûr.
Bernardo. D'ailleurs, juste après l'émission, elle repart avec son jet privé. Repart pour Manhattan.
Mon appartement de l'Upper East Side.
Et du coup, nous avons notre petit Bernardo qui est aux manettes, comme d'hab.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et bienvenue à notre invité.
Voilà,
bonsoir Bernard. Oui, c'est vrai, je ne suis pas venu te dire bonjour, je suis désolé.
J'ai dit, il me fait la gueule aussi ce soir.
Non, c'est vrai. En fait, je ne t'ai pas vu dehors, donc du coup, j'ai hâte de faire la bise tout à l'heure, promis.
Voilà, donc Romain qui est là pour le 98e numéro du magazine Hétéroclite, du mensuel Hétéroclite. C'est le numéro de mars, le numéro de printemps. L'année dernière, qu'est-ce que je raconte ? La semaine dernière, nous n'étions point ensemble, puisque moi non plus, d'ailleurs, je n'étais pas là. On était tous à écran mixte, mm-hmm. puisque c'était le début du festival. Et d'écran mixte qui s'est terminé hier. Qui s'est terminé d'ailleurs sur un feu d'artifice extraordinaire, sur une œuvre, un chef-d'œuvre, je dirais. On peut le dire carrément. Non, mais là, c'est rare quand même que je sois aussi dithyrambique sur ce que j'ai vu.
C'est vrai, c'est rare.
Ouais, c'est rare, là. Mais là, franchement, on en reparlera d'ailleurs de ce film documentaire qu'on a vu hier, parce qu'il faut vraiment aller le voir. Il sort le 1er avril au Comédia à Lyon, uniquement au Comédia. C'est Vivant, ouais, de Vincent Boujon. Et moi, j'ai été, même Bernard qui était là, qui est sorti larmoyant de la salle.
Oh,
larmoyant, mais attention, c'est pas du pathos non plus, c'est ça qui est bien. On rit, on pleure, on a toutes les émotions qui passent dans le film, et c'est très fort. Franchement, c'est très fort. Mais du coup, on espère que Vincent Boujon viendra nous en parler du film avant la sortie, qui est donc le 1er avril au Comédia. Hein, Bernard, mais on incite déjà, on va faire du buzz, les gens à aller le voir.
Alors, je retournerai le voir.
Et Bernard va retourner le voir. Et on mettra plein d'infos pour ce film, parce que vraiment, vraiment, il faut aller le voir. Voilà. On est sorti, on n'était pas pareil que quand on est entré dans la salle.
Ah, c'est beau ça.
Ouais, c'est vrai. Puis on était fiers aussi, à quelque part, et heureux pour les protagonistes, quoi, du film. Mais j'en dis pas plus. Tu sais, je révélerai le voile petit à petit, jusqu'à ce que... J'espère que Vincent Boujon pourra venir, parce qu'il pourra nous parler, lui, dans quel état d'esprit il a fait le film. Bon, il en a parlé hier, puisque à la fin de la séance, il y avait un échange avec le public. La salle était comble. Donc déjà, le film documentaire, le film de Vincent Boujon avait joué déjà d'une certaine notoriété, je pense. Et là, la salle était comble et c'était très, très bien. C'était très bien. Voilà, donc on y reviendra. Mais nous, ce qui nous intéresse ce soir particulièrement, c'est toi, Romain, et
c'est
le journal Hétéroclite. Romano, notre Romano national. Donc voilà, tu es là ce soir pour nous parler du numéro d'Hétéroclite. Alors de tout ce qu'il y a dans le numéro, il faut inciter les gens à l'acquérir gratuitement, comme d'habitude, dans tous les meilleurs lieux de Lyon.
Voilà. Les lieux gays et lesbiens, les lieux culturels, les lieux pas gays et lesbiens aussi. Voilà.
Oui, parce que comment c'est déjà ? C'est pas que mensuel gratuit gay, mais pas que.
Voilà.
Voilà. Tout le monde peut le lire. Et là, ça ne boulera pas les doigts au nom LGBT si on l'ouvre. Au contraire, ça ne saurait qu'apporter un enrichissement supplémentaire à une vie généralement morne quand on n'est pas LGBT. Voilà. Hétéroclite. Alors moi, j'aime bien parler de l'édito. Tous les mois, tu fais un édito, Romain Vallette, en tant que rédacteur en chef. Et cette fois-ci, ça tombe bien, l'édito, parce que cette émission, finalement, on va parler beaucoup de sida, de VIH et de sida. Une fois n'est pas coutume, je dirais une fois n'est pas coutume. Pourquoi ? Parce qu'on n'en parle pas souvent maintenant, et on en parle dans des termes qui sont un petit peu plus volages qu'on pouvait en parler il y a quelques temps. Malheureusement, je dirais, et d'ailleurs, le reportage auquel je faisais allusion à l'instant, le film documentaire, remet bien les choses en place aussi. C'est assez extraordinaire. Et surtout, donne la parole, justement, à des personnes concernées par le VIH, qui ne sont souvent, encore maintenant, pas toujours des personnes très visibles. Et du coup, nous avions aussi évoqué ici souvent Hypergay, le programme Hypergay. Pas toujours pour en dire du bien, même souvent pour en dire du mal. De ma part, hein, je parle à mon nom personnel. Néanmoins, toi, Romain, tu as fait un édito que je n'ai pas lu. Mais Hypergay, hyper bonne nouvelle. Alors, serait-ce...
Non. Alors,
hyper gay, hyper bonne nouvelle. Voilà, c'est titré comme ça. Sida, hyper gay, hyper bonne nouvelle. Mais ce serait une tournure.
C'est le titre d'un article.
C'est une citation.
C'est une citation. Ah oui,
c'est une citation, parce que chaque édito commence par une citation.
D'accord.
Et l'édito n'est pas forcément en accord avec la citation.
Voilà.
En l'occurrence, ce n'est pas le cas, puisque ce titre, donc en fait, c'est le titre d'un article d'Éric Favreau qui est paru dans Libération le 23 février dernier, notamment pour parler des résultats de cet essai hyper gay. Donc Éric Favreau titrait « Hyper gay, hyper bonne nouvelle ». Et l'édito est là un peu pour tempérer cet optimisme très fort, tout en disant « Ne fermons pas complètement la porte à la PrEP ». Donc dans l'édito, je rappelle un peu ce qu'est la PrEP déjà, en quoi ça consiste. Donc on peut rappeler que ça, c'est la prise de médicaments antirétroviraux de façon préventive. Donc les médicaments antirétroviraux qui sont habituellement prescrits aux personnes séropositives pour leur traitement, là il s'agit pour des personnes séronégatives de prendre des antirétroviraux pour justement éviter d'être contaminés. Il y a plusieurs études qui ont montré l'efficacité de cette méthode, à la fois que ça soit qu'on prenne les antirétroviraux en continu, de façon régulière ou alors de façon plus intermittente quand on sait qu'on va avoir par exemple des rapports non protégés, et c'est ce que vient confirmer en grande partie donc les résultats d'HyperGay qui ont été publiés le mois dernier.
Alors est-ce que l'article, enfin ton éditorial revient un peu, on va pas y revenir, c'est pas le fond du sujet, mais sur la polémique autour du programme lui-même HyperGay, la branche placebo, la branche aveugle, etc.
Non, pas tellement. D'accord. En fait, je parle plutôt de tous les inconvénients, de tous les reproches qu'on a pu faire à la PrEP. Et parce que je pense que ces reproches sont fondés. Alors bien sûr, on sait que donc la PrEP ne protège pas des autres IST autres que le SIDA, qui sont en recrudescence. Voilà, la syphilis, les hépatites, etc. La PrEP elle-même n'est pas un remède à 100% contre le sida, puisque les résultats d'HyperGay montraient un taux de protection de 84%, donc ça laisse quand même encore une marge d'erreur, un risque d'attraper le VIH. C'est extrêmement cher, puisqu'on parle de 520 euros pour une boîte de 30 comprimés, donc imaginez, même si c'est remboursé par la sécurité sociale, imaginez ce que ça va coûter. Derrière, on sent bien aussi qu'il y a des intérêts des labos pharmaceutiques qui ont tout intérêt à mettre ce traitement en avant.
Il y a des effets secondaires,
puisque c'est un traitement antirétroviral. Donc toute personne séropositive sous traitement antirétroviral pourra vous confirmer que c'est pas une partie de plaisir, que c'est lourd, que c'est un traitement à vie, il y a des effets sur certains organes, sur le foie par exemple. Enfin, c'est pas une aspirine qu'on prend, hein. C'est vraiment des substances chimiques très fortes qui peuvent détériorer votre santé et avoir des effets secondaires importants. Ça peut également, la PrEP risque aussi de troubler le message de prévention, puisque c'est vrai que maintenant certaines personnes peuvent se dire, ne savent plus très bien. La PrEP demande en tout cas d'être bien informée. Il faut que chaque personne soit bien informée pour pouvoir faire des choix de façon.
D'ailleurs, parmi les critiques qui avaient été formulées sur le programme HyperGay, justement, oui, c'était évidemment la publicité, l'annonce un peu de ce programme par les associations participantes, notamment
sur leur communication.
Sur leur communication, disait marre du préservatif. Marre du préservatif, vous avez une autre solution, ça sous-entendait un peu ça, ça a mal été très mal interprété, à juste titre. Il y a aussi un socle moraliste, on dit, hein, par rapport à ceux qui sont opposés, particulièrement moi, on m'a accusé d'être un moraliste, parce que à la base, comme tu le disais, moi ce qui me choque, c'est un bout de caoutchouc, c'est pas grand-chose, pour éviter tout le reste dont tu viens parler, de parler, et en plus, je sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs, tellement je suis énervé quand j'en parle. Non, je suis pas énervé du tout. tout, mais je veux dire...
d'un taxé de moraliste.
Oui, voilà. Alors que c'est pas... Et surtout, voilà, comme tu le rappelais Romain, et tu le rappelles dans ton éditorial, ça coûte cher, ça va être remboursé par la Sécu. Que vont penser les gens qui disent, ouais, pour certains hédonistes, égoïstes, qui pensent qu'à leur pomme, la sécurité sociale, déjà, qu'il y a le trou de la sécurité sociale, il va falloir en plus qu'on paye de la prévention à des gens qui veulent pas mettre de capote. Ça, on va l'avoir en plein dans la gueule. Moi, c'est ce que je pense, hein, mais maintenant... Et puis, je pense un petit peu aussi, hein, personnellement. Mais bon, Romain, je pense que tu... C'est vrai, bon, après, moi, on me dit, voilà, ouais, mais c'est de la morale de grand-papa. Non, il y a quelque part, il y a la prise en compte de l'autre aussi dans cette affaire. Et c'est, non, moi, je veux pas mettre de préservatif, ça me fait chier, voilà. Non, moi, ça me gêne. Moi, c'est tout.
Oui, bah, je... ça fait partie des...
Il y en a marre. Merde.
Il y en a marre.
C'est pas compliqué de mettre un bout de latex, bordel.
Voilà, exactement.
Oui, mais justement, c'est typiquement... Voilà, alors, toutes ces choses-là sont vraies, et en même temps, c'est typiquement le genre de discours qui marche plus. Enfin, on voit bien que...
Non, mais avant, on comprenait qu'on pouvait être attrapé, je veux dire, par la maladie. Mais maintenant, avec tout ce qu'on sait, comment on peut... Même se dire je vais plus mettre de préso, je m'en fous, le Truvada c'est le miracle, j'aurais pas le...
Bah, je sais pas, on peut aussi dire dans ce cas là si on raisonne comme tu le fais, on peut aussi dire bon bah écoutez, maintenant vous avez le préservatif et si vous chopez le sida, bah démerdez-vous quoi, enfin tu vois, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait.
Différence c'est que la PrEP ça concerne des personnes séronégatives,
oui,
qui ne veulent pas prendre le préservatif,
oui,
c'est différent quand même.
Donc on les laisse tomber en fait, elles l'ont bien cherché et puis on les laisse se contaminer.
Oui, bah moi de toute façon c'est clair et net qu'il n'y a pas de préso, pas de baise. C'est facile, hein, moi c'est comme
oui,
ça que
non,
je
non mais d'accord, pour toi peut-être et tant mieux pour toi.
Et comment expliquer alors à des gens qu'une boîte de 520 euros va être remboursée par la sécurité sociale pour un programme qui prévient d'une maladie qu'on peut justement éviter par d'autres moyens beaucoup moins onéreux.
Si je ne pense pas que pour l'instant ce soit beaucoup ébruité, vu que personne ne parle du sida, personne ne parle de la sexualité des gays en règle générale.
En expliquant peut-être que ce qui convient à certaines personnes ne convient pas à d'autres et que le préservatif, voilà, peut-être que je comprends que ça puisse paraître inaudible et incompréhensible. Mais voilà, le fait est qu'il y a des personnes pour qui le préservatif, c'est juste pas possible, qu'elles n'en veulent pas. Alors...
Coup de Gérald, c'est comme ça.
On peut trouver ça désolant, on peut se dire elles pourraient faire un effort, etc.
Et moi, ça m'a...
Mais enfin, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit faites un effort, ou alors tant pis, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même.
Ouais. Ce qui m'avait hérissé le poil, c'était donc la communication en disant marre du préservatif. Non, pas marre du préservatif. On peut en avoir marre.
Venant d'associations,
voisins qui font du bruit.
Venant d'associations, c'était malade.
Voilà, tout à fait.
Non, parce que je pense que ça part d'une réalité. Il y a plein de gays qui en ont marre du préservatif.
Ceci dit,
on peut trouver ça lamentable ou désolant, mais je pense pas que c'est en leur. Aujourd'hui, les gens qui n'utilisent pas le préservatif. Qui le font, je parle pas des gens qui peuvent oublier, ça peut arriver. Les gens qui systématiquement, les gays qui n'utilisent pas le préservatif, le font en toute connaissance de cause. Mmh. C'est pas une énième campagne de prévention leur disant attention, si vous ne mettez pas le préservatif, vous risquez d'attraper le sida, les MST.
Pourtant, c'est ce qui se fait encore, hein. On voit
oui,
avec,
bien sûr, il faut le faire.
Les petits films de Prends-moi qu'on voyait, qu'on a vu l'année dernière cette année, où ils disent le préservatif seul vous préserve du sida. Même Ed est revenu là-dessus, en réaccentuant.
Ed, je pense, a toujours eu une position beaucoup plus subtile que celle qu'on veut caricaturer. Ed a jamais dit abandonnons le préservatif, évidemment.
Alors, quel est l'intérêt de faire un programme hyper gay si on prend un préservatif? D'où est l'intérêt? C'est ça, je comprends pas. Parce qu'il disait, le programme, on informe les gens que le préservatif est le seul moyen. Bon, ça veut dire que les gens qui ont fait l'hyper gay, ils ont pris du Truvada, par exemple, ou d'autres médicaments antirétroviraux, en mettant un préservatif. Non, l'intérêt, c'est de voir l'effet sur les gens qui ne prennent pas de préservatif.
Non, ils n'ont pas toujours pris des préservatifs, puisque il y a une partie des...
Ed se défendant en disant, nous, on n'a jamais dit qu'il fallait abandonner le préservatif, même à ceux qui font le...
Oui, tout à fait. Mais en étant conscient que même en leur disant que le préservatif, c'est nécessaire, il y a des gens qui ne mettent pas la capote.
Et puis maintenant, autre chose. Bon, tu sais, quand tu vas baiser, toi, franchement, Je veux dire, tu vas prendre ton médicament en disant bah, aujourd'hui j'ai baisé parce que tu le prends pas tous les jours ton médoc.
Mais là encore une fois, Gérald, je pense que tu essayes de calquer ta propre sexualité sur celle des autres.
Et... Non, mais enfin, on baisse pas tous les jours non plus.
On peut pas
avec des partenaires variés, avec des partenaires différents tous les jours.
Ça se passe comment en fait ? C'est pas un traitement de tous les jours ? Genre.
Dans le cadre d'Hypergay, non, c'était pas un traitement. Dans le cadre de l'essai, les participants prenaient pas le traitement tous les jours, ils prenaient le traitement. Quand ils savaient qu'ils allaient avoir... Donc là encore, c'est une catégorie, les participants, c'est pas n'importe quel gay, c'est pas le gay lambda, entre guillemets, c'est une catégorie de personnes très particulières, ceux qui déjà ne mettent pas de préservatif, donc voilà, Ed les a pas... c'est pas Ed qui les a incités à pas mettre de capote, c'est eux-mêmes qui déjà, avant, avaient un problème avec la capote. Et deuxièmement, c'est également, voilà, on peut penser que c'est ceux qui ont peut-être... une sexualité plus active ou plus planifiée ou plus voilà, tu sais que tu vas te faire un
ils savent que
et si tu te fais un week-end à Paris et tu passes 48 heures au dépôt
tu fais du stop mais t'as pas pris ton Truvada avant et t'as un mec qui te drague, tu t'as pris dans ta bagnole, t'en peux plus, t'as pas de capote mais t'as pas pris le Truvada, comment tu fais?
Ah bah t'as ni capote ni Truvada et effectivement
t'as
pas
de parce que tu peux pas prendre ton Truvada à chaque fois tu...
oui enfin c'est comme la capote c'est comme la capote quand tu vois pas comment tu fais.
Bah si, moi j'en ai toujours dans mon...
Eh bah, pardon. Peut-être que le Truvada...
Gilles, si tu m'entends, c'est pas vrai. Non, par contre, le bon côté des choses, entre guillemets, c'est qu'une personne qui est sous PrEP ou qui prend un traitement antirétroviral a une charge virale qui est tellement faible qu'il ne peut, il est pratiquement plus contaminant pour un partenaire. Ça, c'est une bonne chose.
Oui, mais alors quelqu'un qui est, ça veut dire une personne, c'est au positif, mais dans ce cas-là, on parle pas de PrEP, oui, mais c'est un.
Oui, oui, ça voilà, dépend, ce, quelqu'un qui est sous Truvada, ouais. Et à la limite, quelqu'un qui est même en PrEP, lui-même, s'il a, il a la maladie sans le savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont sans le savoir. On va dire quelqu'un quand même qui utilise du Truvada en PrEP, il aura peut-être fait un test avant pour savoir s'il était séropositif ou pas. Parce qu'on sait qu'il y a encore 50 000 personnes qui sont ignorantes de leur état. De leur,
Je suppose que si une personne commence un programme, la PrEP, il est forcément testé comme négatif.
Oui, comme négatif. Mmh. Je veux dire, lui, le programme, il perd gay. Mais après, si quelqu'un décide de lui-même de prendre...
Ah bah, de toute façon, ça va pas être... Ça va pas être... On va... Enfin, je sais pas comment... si ça va se mettre en place et comment ça va se mettre en place. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'autorisation de mise sur le marché, je crois, pour ce... pour la... Enfin, le Truvada est déjà... est déjà disponible, mais pour les personnes séropositives,
qui sont
suivies par un médecin, sur ordonnance, sur prescription, etc. Pour une personne séronégative, elle ne peut pas aller dans une pharmacie et dire « Oh, je voudrais du Truvada parce que je vais faire de la PrEP moi-même. »
Non, de toute façon, c'est le médecin qui va...
C'est le médecin, évidemment, il faudra... Et c'est là qu'il y aura aussi un encadrement, un conseil avec les gens qui pourront... Les docteurs qui pourront évaluer si la personne... voilà, conseiller la personne, lui rappeler l'importance du préservatif pour se protéger. Voilà, toutes les imperfections, tous les inconvénients de la PrEP. Et ensuite, ce sera la personne, de façon éclairée, de faire son choix en toute connaissance de cause. Quoi.
Ouais. C'est vrai que, pour revenir donc au film documentaire qu'on a vu hier, toutes les personnes ont été contaminées bien avant la PrEP, etc. La plus récente contamination était de 2005 et quelqu'un qui faisait en fait une culpabilisation extrême d'avoir été contaminé en connaissance de cause. C'est-à-dire, il disait, je savais ce qu'il fallait que je fasse et que je ne fasse pas ce que je devais faire pour ne pas attraper la maladie et je l'ai fait. Et c'était dur pour lui. Hein.
Ce qui montre bien aussi qu'il y a besoin d'autres méthodes, puisque même en étant parfaitement informé sur les avantages
du préservatif, sur les risques... Mais à l'époque, on ne parlait pas de PrEP, etc.
Non, non, mais justement, peut-être que ça peut changer en partie grâce à la PrEP, même si quand je le dis dans l'édito, c'est pas une panacée et c'est pas... ça peut pas être une méthode miracle pour ni pour tout le monde ni même pour tous les gays. Je pense que c'est vraiment pour une ça peut être un outil intéressant pour une minorité dans la minorité, c'est-à-dire la minorité de gays qui
non monogame.
Non, la minorité de gays qui refuse systématiquement ou quasi systématiquement le préservatif.
Ouais.
Pour eux... Mais d'ailleurs, pourquoi cette étude a été concernée que les gays?
Parce que
ça, ça a été aussi très critiqué, hein, le programme hyper gay. Déjà, rien que le mot gay dans un programme.
En même temps, il ne faut pas se voiler la face non plus. Chaque année, entre, je crois que c'est 44% des nouvelles contaminations sont des HSH, des hommes ayant des relations avec des hommes.
C'est la seule population.
C'est la seule population
en France, ça
en Europe où elle augmente. Voilà.
Après, il y a également voilà, les personnes migrantes. Mais clairement, il y a... je veux dire, on peut pas, je ne pense pas qu'il faille le même outil de prévention. Clairement, on ne peut pas aller à tout le monde. Et à mon avis, la PrEP est intéressante spécifiquement pour les gays. En raison de... pour une partie des gays, quoi. En raison de leur comportement sexuel particulier qu'on ne trouve pas forcément chez les... chez les personnes migrantes ou chez tout le monde, quoi. Ou chez le tout venant.
Le tout venant.
Le tout venant.
Tout venant. Bref, donc du coup, l'édito porte sur le lien, enfin sur le, la.
Mais la tu PrEP. Liras avant l'édito. La prochaine fois, tu le liras avant, comme ça on pourra
mais
en débattre.
Mais oui, mais je n'avais pas la version papier, j'ai pas eu le temps de lire la version en PDF. Hein. Mais bon, non, de toute façon, j'aurais dit la même chose que ce que je t'ai dit. Après tout, tu me dis que ton éditorial dit attention, c'est pas le paradis retrouvé.
Non, c'est pas,
on va
pas le
pouvoir baiser à tout
le monde,
sans mettre de capote, etc. Ça va être génial. On va pouvoir s'éclater à nouveau. Ouais, ouais. Bon. En tout cas, ceux qui en vivent et qui sont concernés par le VIH, c'est pas une partie de plaisir. Même maintenant, on l'a vu encore, et je reviens au film documentaire, c'est des gens qui vont au-delà même de tout ce qu'ils pouvaient penser faire. Au-delà de la maladie, au-delà de tout, ça c'est extraordinaire. C'est pour ça que je répète, il faut aller voir ce reportage, ce film documentaire. Je ne sais pas pourquoi je dis reportage, c'est pas un reportage, c'est un film documentaire. Et justement, avant de lancer, parce qu'on va parler de la chronique de Thomas, on va lancer. Tu voulais dire quelque chose, ma petite Lolo ?
Pas du tout.
On va revenir aux chroniques guépiers après, mais je voulais justement parler très rapidement, parce que le temps tourne malheureusement, mais justement aux États-Unis, dont tu reviens,
oui.
Ma chérie, oui. Mais tu n'étais pas à Palm Springs,
non.
Là je vais parler de Palm Springs en Californie, donc c'est une ville moyenne des États-Unis, au nord de Los Angeles, à l'est de Los Angeles, bref, peu importe, et c'est une petite ville où il y a une très forte communauté gay qui se réunit là-bas depuis de très nombreuses années, d'une destination de vacances, etc., puis c'est devenu un ghetto, comme ils savent faire les Américains, hein. Puis il se trouve que ces dernières années, il y a des programmes immobiliers qui ont été faits avec des loyers à faible coût pour des personnes touchées par le VIH et des personnes âgées. Puisqu'on arrive maintenant aux États-Unis, oui. Notamment, puis aussi en France, avec des personnes qui sont concernées par le VIH, mais qui ont attrapé le VIH dans les années 80 et qui sont des rescapés, entre guillemets, parce qu'ils ont été juste au début des... Bon, il y en a quelques-uns qui sont passés à travers le filet, puis il y en a d'autres qui ont été contaminés à la fin des années 80 et qui ont bénéficié des premiers traitements qui leur ont permis de survivre, de vivre et de survivre. Donc se retrouve là une population importante, de moyenne d'âge c'est 51 ans, il y a des gens de la soixantaine et même de 70 ans qui vivent là, qui sont des retraités de la maladie, je dirais, qui sont traités, etc. Alors que l'avantage, c'est qu'ils ont sur place des cabinets médicaux, ils ont tout ce qu'il faut, une prise en charge thérapeutique qui est appropriée à leur type de profil médical, je dirais. En revanche, c'est aussi très intéressant pour les chercheurs et pour les médecins, parce que ils ont sur place un échantillon assez important de populations âgées touchées par le VIH et des gens qui vivent avec le VIH parfois depuis 30 ans. Et donc, ils ont pris les conséquences, pu étudier les conséquences sur l'organisme du VIH et ce n'est pas anodin. C'est sans appel même, je dirais. Parce que les personnes qui ont contracté le VIH ont un vieillissement anormal par rapport au reste de la population. Ils ont... deux fois plus de risque d'avoir le cancer, développer le cancer. Toutes les maladies cardiovasculaires, cancer, qui concernent la majorité de la population vieillissante, chez eux, c'est du simple au double. Les risques de diabète sont très élevés en vieillissant. Même des gens qui génétiquement n'ont pas de diabète chez eux peuvent développer des diabètes de façon, dans une proportion beaucoup plus élevée que la normale. Des problèmes neurologiques... vraiment assez important puisqu'il y a des troubles cognitifs graves et des troubles de la mémoire. Par exemple, il y avait dans l'article sur lequel je me base et aussi le reportage qui va sortir, un reportage américain sur cette communauté de malades du sida, donc à Palm Springs. On voit des gens, par exemple, qui ont des post-it de partout dans leur maison pour se rappeler ce qu'ils doivent faire heure par heure parce qu'ils ne se souviennent pas.
D'accord, ouais.
Aller acheter les œufs ou... jeter la poubelle, ou ils se sont rendus compte que ça avait une affaire, ça acceptait beaucoup de neurotransmetteurs et que prématurément le cerveau vieillissait, donc ça atteignait les troubles de la mémoire, mais aussi des troubles de la concentration, des troubles sur la prise de décision. À 50 ans, des gens qui n'arrivent pas à, qui ont des comportements qui sont ceux d'un vieillard, en fait. Sur la coordination des mouvements, des troubles du langage, des gens qui parlent difficilement, etc. Ils se sont rendus compte que le vieillissement du cerveau était très rapide, beaucoup plus rapide. Les tissus du cerveau, les cellules du cerveau vieillissaient beaucoup plus vite que la normale chez les malades du VIH. Ça concerne à peu près la moitié du 1,5 million de personnes qui vivent actuellement avec le VIH aux États-Unis, qui est vieillissante. Et notamment, ils ont calculé, par exemple, ils ont vu par l'imagerie médicale, etc., qu'un cerveau de 50 ans d'une personne qui a atteint depuis une trentaine d'années par le VIH, ça correspond à un cerveau d'une personne de plus de 70 ans. C'est-à-dire que c'est un cerveau vieux, avec tout ce que ça comporte, donc troubles de langage, problèmes de concentration, de mémoire, etc., etc. Donc maintenant, on se rend compte que le VIH n'est pas anodin, que c'est une maladie qui, à long terme, affecte toutes les fonctions physique et neurologique d'une personne. Voilà, c'est pas très réjouissant.
Non, c'est...
mais c'est une étude américaine sérieuse qui a été validée par l'Office de la santé américain, qui est le regroupement de plusieurs recherches qui sont permises notamment par ces regroupements comme à Palm Springs de personnes âgées qui vivent dans de véritables lotissements de retraités gays. C'est une population essentiellement masculine, gays essentiellement, et donc touchée par le VIH depuis un certain nombre d'années. Et à ce sujet va sortir un documentaire aux États-Unis, alors il sortira j'espère en France, il va sortir cette année, ça s'appelle Desert Migration. Il parle donc de la migration des États-Unis, des personnes, des vieilles personnes, des personnes âgées qui vont vers Palm Springs pour bénéficier en plus d'un programme de coûts de loyer modéré, avec une aide de l'État par-dessus le marché, pour certains qui ont des handicaps trop importants, et qui se regroupent là-bas, et donc de tout l'environnement médical, thérapeutique, mais aussi de leur vie à eux, de ce qu'ils sont, ce qu'ils font, comment ils réagissent par rapport à tous ces phénomènes qui sont évoqués là, puisqu'ils sont constatables visiblement, et surtout, c'est un panel de population, directement, les chercheurs ont donc appuisé dans tous les dossiers, dans toutes les personnes qui sont là. Donc le VIH, ce n'est pas anodin. On vieillit mal avec le VIH. On vieillit différemment. Même si on guérit, ça affecte tout le métabolisme humain. Après, ça concerne 50 à 60% des gens. Il y a des gens qui peuvent en sortir indemnes, mais c'est vraiment pas anodin. Voilà. Pour ça, on a l'impression depuis quelques années, c'est ouais, le VIH. Mais non. Non, ça reste une maladie grave, même pour ceux qui vivent avec.
Est-ce que ce sont pas aussi les conséquences des traitements à répétition ?
Alors oui, alors exactement. Tout à fait. Tu fais bien de le préciser, Lolo, parce que je voulais le dire. Il n'y a pas que le virus en lui-même qui affecte, mais effectivement, il y a les effets secondaires à long terme des traitements. Parce qu'il y a les effets secondaires spontanés. Encore une fois, on en parlait dans toujours le même. Je reviens, parce qu'il faut aller le voir. C'est formidable. Il y en a un des protagonistes qui évoquait les effets secondaires quand il a commencé à prendre les antirétroviraux. Et il disait, mais au bout de la troisième prise, j'ai vécu l'enfer. Il ne pouvait plus sortir de chez lui, il passait des nuits entières dans les WC, à se vider littéralement. Il dit, personne n'imagine ce que ça peut être. En plus, il n'est pas moralisateur, justement, le reportage. Ni on ne sombre pas dans le pathétique. Ouais. C'est des gens qui parlent simplement de ce qu'ils ont vécu. Voilà. Mais après, il y a les effets donc spontanés, comme ceux qu'on vient de décrire. Voilà. Et puis, il y a aussi les effets, à long terme, qui effectivement, comme tu le disais, peuvent provoquer aussi des effets à long terme sur l'organisme humain, comme toute médicamentation, de toute façon, en règle générale, a toujours des effets d'une manière ou d'une autre. C'est ce que vous voulez dire. J'ai trouvé l'article intéressant et ce reportage assure. Donc, il va sortir aux États-Unis. J'avais noté le nom du réalisateur. Bon, personne ne le connaît, je ne connaissais pas. Il s'appelle Daniel Cardone, d'une sortie prévue aux USA, et ça commence déjà à faire... On en parle beaucoup dans les médias américains, justement. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On met une petite chanson ou on balance la chronique ? Qu'est-ce que t'en penses, Bernardo ? Non, parce que là, on est plombé.
Bien plombé. Allez, on met une petite chanson.
Voilà, j'ai un peu plombé l'atmosphère, donc...
C'est quoi ? C'est la chanson ou c'est la chronique d'abord ?
La chronique, je n'entends pas ce qu'il dit.
Moi non plus.
Qu'est-ce que tu dis, Bernardo ?
On va mettre la chanson en premier.
Okay. Allez, ouais, parce que bah, ça va un donner
petit,
un peu de...
Un petit Jimmy Somerville, alors. Jimmy...
Ah oui, parce qu'il a sorti un album.
Et oui, parce que alors, du coup, ça va faire du bien. Mmh. Il a sorti un nouvel album, et donc le titre, là, c'est Travesti. C'est l'album, le titre qui est sorti en premier, oui, je crois, oui. Sorti il y a quelques semaines, oui. Moi, je ne sais plus. Et qui est un hommage au disco.
Ouais, c'est donc, le retour voilà. De Jimmy Somerville voilà, après des années ça. D'absence
c'est ça.
Artistique. Des années d'absence artistique. Bon. On attend, c'est tellement, on a tellement entendu qu'on n'arrive même pas à le lancer. Tu vois. Bernardo, qu'est-ce que tu nous fais ? Donc, on envoie la chronique, c'est ça, de Thomas Dupuis ? C'est ça ? Ça marche pas ?
Quelle année ?
Hein ?
Quelle année ?
87.
87.
C'était celle année. Qui était... Ouais. C'est l'année de ta naissance. Justement, on parle beaucoup de sida.
Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc, Thomas Dupuis, auteur des Années Guépier, paru aux éditions des Ailes sur un tracteur.
et pour la chronique de l'année 1987. Donc l'année 1987, c'est une année où le gouvernement français souffle le chaud et le froid.
Comme je le disais la fois précédente, la France est dotée d'un gouvernement de cohabitation, avec Mitterrand, François Mitterrand qui reste à l'Élysée, et Jacques Chirac, donc de droite, qui prend le gouvernement et Matignon. Et on va voir en 87, alors c'est intéressant de faire le distinguo entre les deux, on va voir d'une part l'action au ministère de l'Intérieur de Charles Pasqua qui va être totalement anti-homo, voilà. Et en face de ça, on va voir l'action au contraire de Michel Barzac qui, sans être pro-homo particulièrement, va vraiment faire avancer les questions politiques de lutte contre le sida. D'un côté, il y a Charles Pasqua.
Ça a été une année, l'année de tous les dangers, 87 avec Pasqua, pour la communauté gay.
Voilà, alors Pasqua, effectivement, va commencer en mars en essayant de faire interdire un certain nombre de presses. Alors, il y avait le Guépier surtout, et il y a eu aussi d'autres magazines qui ont été menacés, l'Écho des Savanes, Photo, etc. C'était vraiment un retour à l'ordre moral. Voilà, donc il a essayé de faire interdire le Guépier, c'est-à-dire pas le faire interdire directement, ça aurait pas été possible juridiquement, mais c'était de faire en sorte que Guépier n'ait plus le droit de faire de la publicité, d'être distribué dans tous les kiosques par les NMPP, ce qui aurait été au final la mort du journal. Donc le ministère de l'Intérieur va envoyer des lettres aux rédactions de quelques journaux, dont le Guépier, pour leur dire qu'ils ont un mois ou je sais pas trop quoi pour se mettre en règle. Et le Guépier, par contre, représente dans la communauté gay un journal très très important. Et le Guépier aussi est devenu célèbre et a assis sa place, a vraiment consolidé sa place au sein des médias français. Et donc, dès que le matin, c'était en mars, je ne sais plus quel matin, dès que la lettre arrive au Guépier, en fait, tout de suite, la rédaction va se mobiliser, va alerter tous les relais qu'elle avait partout dans la presse, et au final, tout Paris ne parle que de ça la journée où arrive la lettre recommandée au Guépier. Même le journal, le JT de 20h de TF1 en parle. Là, tout de suite, certains membres du gouvernement, Claude Malhuret, qui était secrétaire d'État aux droits de l'homme, pardon, et François Léotard, qui était à la culture, se rendent compte que c'est une bourde énorme de vouloir faire interdire le journal. Donc, ils commencent à infléchir un peu le discours, mais au final, voilà, tout le monde se mobilise, si bien que au bout d'une petite semaine, en fait, Pasqua est obligé de faire marche arrière et de dire que, bon, finalement, alors, je sais pas quelle astuce juridique il a trouvée, mais que finalement, il leur fiche la paix. Donc, l'affaire va durer une semaine, mais au final, aura fait vachement de pub au journal parce que le grand public en a beaucoup parlé. Voilà, donc ça aura été loupé. Dans le même ordre d'idée, quelques mois plus tard ou quelques semaines plus tard, Pasqua va organiser, ça va être juste le temps d'un week-end, une grande exposition Place Beauvau. Alors, je sais plus comment il appelait ça, mais en fait c'était un musée de l'horreur, on va dire, où il a exposé plein de revues, d'objets, etc., pour montrer un peu les déviances du monde contre lequel il se battait. Il va quand même revenir à la charge aussi en milieu d'année pour essayer de réglementer le Minitel. Le Minitel, on en a déjà parlé précédemment. Le Minitel, donc pour ceux qui n'auraient pas connu, pour les plus jeunes auditeurs, c'était, on peut dire, l'ancêtre d'Internet, uniquement français, mais où il y avait beaucoup de sites de rencontres entre mecs. Et donc Pasqua, là, allié au secrétaire d'État au poste des communications, Gérard Longuet, va essayer aussi de mettre de l'ordre dans le Minitel. Pour l'instant, ça aboutira à un échec, enfin, ça marchera pas. Donc on a des mesures très répressives de la droite la plus rétrograde, on dira, qu'incarnait Charles Pasqua au ministère de l'Intérieur. Face à ça, par contre, on a des mesures très progressistes avec Michel Barzac au ministère de la Santé. Il faut voir que du temps a passé, donc là, l'épidémie de sida est vraiment installée. On commence à avoir quelques moyens aussi à y voir plus clair. Donc c'est Michel Barzac qui va lancer un grand plan SIDA. Jacques Chirac a décrété 87, a déclaré 87 année de lutte contre le sida. Et il y a tout un plan qui se met en place au ministère de la Santé. Alors d'abord, pour diffuser beaucoup plus largement, le premier traitement qui est apparu sur le marché l'année passée, c'est la ZT. Alors qui ne sera certes distribué que dans les hôpitaux, mais qui va être beaucoup plus diffusé. Il y a des mesures aussi qui vont continuer auprès de la sécurité sociale pour toujours mieux rembourser, etc. Il va y avoir des campagnes de publicité de prévention, deux grandes campagnes dans l'année. Et puis surtout, il va y avoir un grand plan SIDA qui va mener trois choses principalement. C'est l'autorisation, à l'époque ce n'était pas autorisé, de la publicité pour les préservatifs. Donc ça, ça a été un grand événement. Moi personnellement, je me souviens de la. C'était un dimanche soir, la première fois qu'on a vu une pub pour Durex. Voilà, on voyait une deux chevaux avec visiblement un couple qui s'amusait à l'intérieur, sans savoir d'ailleurs si c'était un couple homo ou hétéro. Voilà, donc Barzac va autoriser la pub pour la capote. Barzac va aussi autoriser la vente libre de seringues dans les pharmacies. Ça, c'était pour lutter contre les infections les infections des toxicomanes. Et enfin, Barzac va créer les CDAG, centres de dépistage anonymes et gratuits, qui vont essaimer partout en France, de façon à ce que les populations aillent beaucoup plus facilement, gratuitement et surtout aussi anonymement, ce qui facilite le geste, se faire dépister afin de pouvoir être prise en charge le plus rapidement possible. Voilà, donc on va avoir vraiment beaucoup d'avancées à ce niveau-là, au point de vue sanitaire, on va dire, grâce à un gouvernement de droite. Alors, la droite la plus extrême, elle, continue à surfer sur la question du sida. J'avais parlé lors d'une précédente émission du docteur Bachelot au FN qui commençait à théoriser la question du sida. Ça va paraître vraiment auprès du grand public en mai 87, quand Jean-Marie Le Pen à nouveau va être invité à l'heure de vérité, qui est la grande émission politique de la deuxième chaîne publique. Et là, va parler ouvertement, et d'ailleurs ce sera repris dans les journaux, de sidaïques qui transmettent leur virus par la sueur, qu'il faut enfermer dans des sidatoriums. Il va vraiment stigmatiser ces populations-là, et ça va avoir d'ailleurs beaucoup de retentissement, même auprès du grand public. C'est des paroles qui passeront pas, clairement, que ce soit auprès de la communauté, bien sûr. Alors d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen sera élu par la communauté personnalité homophobe de l'année, mais même le grand public va continuer à voir la véritable face de Le Pen au travers de ses déclarations sur la question du sida.
D'accord, alors le sida, c'est aussi des événements un peu plus people, puisque les journaux, les rumeurs en tout cas envahissent les colonnes des journaux. Et notamment, on a beaucoup parlé à l'époque de Isabelle Adjani qui était censée être atteinte, touchée par la maladie,
ouais.
Malade et soignée à Marseille. Chose qu'elle a dû démentir, je crois.
Ouais. Alors, effectivement, il y a eu des rumeurs qui ont couru. Alors, d'où elle sortait, j'en sais rien. Sans doute parce que depuis un moment, on ne l'avait plus vue, comme ça se passe souvent avec Isabelle Adjani. Alors, Isabelle Adjani, qui était vraiment qui avait explosé quelques années précédemment avec L'été meurtrier au cinéma. Et donc, il y a des rumeurs qui couraient comme quoi elle était atteinte du sida. Et voilà. Donc, elle a été soignée à la Timone à Marseille. Et Isabelle Adjani a été obligée de venir au JT du dimanche soir de TF1. Je crois que c'était Bruno Mazur qui le tenait ce soir-là, pour démentir officiellement. Mais même ce démenti officiel n'a pas suffi, parce que dès le lendemain, on a commencé à dire oui, mais elle s'est tenue la joue pendant tout l'interview. Donc, il doit y avoir des traces de Kaposi, où on ne savait pas trop. Donc, elle a eu. Après ça c'est tassé, mais vraiment tout le monde était persuadé que Isabelle Adjani était contaminée. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont lu À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, alors j'y reviens fréquemment, mais ce sont quand même de grands livres d'Hervé Guibert, Guibert prend un peu sa revanche sur Adjani et voilà, la met en scène dans le livre. Alors, je ne sais plus comment il l'appelle pas Isabelle Adjani, mais c'est d'elle dont il s'agit, et se moque un peu de ce malaise-là. Par contre, toujours au niveau du grand public, on a quand même un événement très important qui est en octobre, je crois, qui est la une du Nouvel Obs, donc je ne sais plus combien octobre, 87 ou novembre, je ne sais plus, qui met en une photo de l'écrivain Jean-Paul Aron, et avec en gros titre « Mon sida ». Donc Jean-Paul Aron va être une des premières personnalités françaises à dire « oui, je suis atteint » et à raconter. Enfin, c'est une très grande interview qui a d'ailleurs après été sortie en livre dans le Nouvel Obs, où il dit clairement « voilà, j'ai le sida », il en parle, il mourra je crois l'année suivante. Il va passer bien sûr à la télé, apostrophe notamment. On a parlé précédemment de Rock Hudson, qui a été la première véritable grande star de l'époque internationalement connue, qui était un peu l'incarnation du sida. Jean-Paul Aron va être la première personne en France à oser dire avant sa mort « je suis atteint du sida » et donc à personnifier la maladie même auprès du grand public. Et Jean-Paul Aron, qui était d'ailleurs une figure du milieu militant, il était avec Yves Navarre, un des grands intellectuels qui portait la candidature de Mitterrand.
Sur le plan associatif, qu'est-ce qu'on peut signaler pour l'année 1987 ?
On a une association qui va marquer quelques années, qui sera APARTS, mais qui est une association de lutte contre le sida, qui en fait était là pour qui achetait des appartements. Alors d'abord à Paris, je crois, puis il y en a eu à Créteil, il y en a eu un peu à Marseille, je crois. Donc qui étaient des appartements thérapeutiques en fait pour les malades expulsés de chez eux ou qui avaient besoin d'être encadrés. Et par contre, une association, c'était plus une fédération, c'est la fédération Agora, dont personne ne parle, qui était en fait une alliance des grandes grandes entre guillemets, associations gays de l'époque, David et Jonathan, Le Gage, etc. Donc ça a été un regroupement d'associations qui a essayé de travailler ensemble. Alors c'était un peu un précurseur de ce que deviendra plus tard le Centre Gay et Lesbien. La Fédération Agora va tenir 2 ou 3 ans, sans grande action, parce qu'en fait c'était un regroupement d'associations et c'était pas une association propre. Ça fait que chaque militant de chaque association était pris par ses propres priorités. Après l'effondrement du QAR, qui a été la grande fédération du début des années 80, fédération plus politique, la Fédération Agora était un essai de, à la fois, de ce que deviendra le Centre Gay Lesbien et de ce que deviendra plus tard l'inter-LGBT. Mais là, on est beaucoup plus dans les années 90 puis 2000, de regroupement d'une fédération d'associations gays.
L'année 1987, c'est aussi une année assez événementielle, finalement, par rapport à des personnalités qui souvent sont liées plus ou moins à la culture gay, à la culture lesbienne. Donc je pense à Dalida, par exemple, qui décède en cette année-là. Voilà. Mais il y a aussi d'autres événements plus joyeux, peut-être aussi, qui sont intervenus en nombre en 1987.
Effectivement, en 87, on a plein de petits ou grands événements autour des reines, on va dire, des icônes gays. Alors effectivement, on a Dalida qui va se suicider. Qui se suicide cette année-là. Alors dès les semaines qui suivent, d'ailleurs Orlando commence à sortir la première compilation post-mortem de Dalida. Ce sera que la première avant un grand nombre. On a aussi Barbara. Alors Barbara, icône gay là aussi si l'année, qui sort son titre Si d'amour à mort. Barbara, l'année précédente, j'ai oublié d'en parler dans les précédentes émissions, elle avait fait un grand spectacle, L'Illipation, avec Depardieu, donc elle se recycle un peu. Et Barbara, en 87, donc, sort l'album Si d'amour à mort, où elle commence, en fait, sa campagne de soutien aux malades et à la prévention. Barbara, après, jusqu'à la fin de sa vie, s'investira totalement dans la lutte contre le sida. Pendant un an, elle se mettra en retrait pour visiter des malades, pour visiter des prisons, pour porter vraiment des messages de prévention. Elle s'est investie là-dedans. Et on pourra citer, là, plus pour le fun, Mylène Farmer, qui commence vraiment à exploser dans ces années-là. Eric Morena, qui sort son tube au Mont Bateau. Une folle emblématique, on pourra dire. On pourra citer aussi en 87 la mort de Liberace, là aussi grande folle, on dira devant l'éternel. Alors, beaucoup moins connue en France qu'aux États-Unis, mais à cet égard, je pourrais que conseiller aux auditeurs qui n'auraient pas vu de louer ou d'acheter le film avec un très grand Michael Douglas. Alors là aussi, Liberace, qui était un personnage totalement extravagant, qui n'assumait pas officiellement du tout son homosexualité, alors que vraiment, c'était l'incarnation même de la folle extravagante. Et d'ailleurs, il y a plein de personnes qui, à sa mort, ont semblé découvrir qu'il était homo. Au niveau de la culture, vraiment, on pourra citer la sortie du film de James Ivory, Maurice, avec Hugh Grant. Et enfin, sur la culture au sens plus élargi, on pourra faire un clin d'œil à David Girard, qui sort son premier disque, un peu ridicule, mais bon, c'était le personnage, voilà. Et surtout, qui inaugure, courant 87, qui ferme le Haute Tension, qui était son précédent club, et qui ouvre le Megatown. Le Megatown, à Barbès, à l'ancien cinéma Le Luxor, qui maintenant est redevenu le cinéma Le Luxor d'ailleurs. Donc c'était un immense club, c'était un truc énorme avec plein de lasers à l'époque, voilà, très, très disco, très, très fête quoi. Le soir de son inauguration, David Girard va jusqu'à mettre en place des services, des navettes gratuites de bus entre Châtelet et Barbès. Voilà, ça va être le grand événement de clubbing en France. Je crois que c'était d'ailleurs le plus grand club en Europe.
Eh bien, nous nous retrouverons pour une prochaine chronique, la chronique de l'année 1988. Merci Thomas.
À bientôt.
Pluriel gay.
Nous sommes déjà à l'antenne. Bon, ben voilà, c'était donc Thomas Dupuis, les chroniques de l'année 87. Et tu nous rappelais, Romain, que c'était donc ton année de naissance. Maintenant, on saura ton âge. Calculé.
Non, mais excellente année.
Non, mais il est jeune.
Mais bien sûr
on peut dire
jeune.
Son, en ton âge, on peut encore dire l'année où tu es.
Voilà, j'ai en profité encore pendant quelques années.
Voilà, après, tu vas bloquer le compteur, tu verras.
Exactement. J'ai avoir 30
dans
ans.
Dans deux ans, tu le bloques.
J'ai avoir 30 ans pendant très longtemps.
Donc.
C'est comme la fameuse blague. C'est la minute un peu, le quart d'heure misogyne. Ah, la fameuse blague de Sacha Guitry, quelles sont les 10 meilleures années de la vie d'une femme? Entre 30 et 31 ans. Je pense que ça marche aussi pour les
avec
gays,
d'ailleurs. Exactement.
Donc, c'est une blague misogyne et homophobe.
Voilà, c'est ça. De toute façon, c'est Guitry. Hein,
oui. Ouais.
Absolument. Donc, on va revenir au numéro 98 d'Hétéroclite, pour lequel tu es là, Romain. Et bon, évidemment, le numéro, comme d'habitude, est très riche et nous ne pouvons pas tout parler de tout. D'abord, une heure, c'est court. Mais néanmoins... nous avons pensé que tu pourrais nous évoquer un article sur le fist-fucking qui se trouve donc dans le numéro de ce mois-ci. C'est pas pour faire racoleur, hein, mais bon, voilà, bon. Nous, ça nous a interpellé, Clolo.
Et moi, ça m'a
interpellé. On parle de fist-fucking dans Hétéroclite, je veux dire.
Oui, mais c'est très bien.
Oui, voilà.
Enfin, c'est très bien.
Mais sous quel angle, justement, on en parle, je voudrais savoir. Quel angle vois-tu le fist-fucking, Romain?
Et moi, j'aime bien, si je peux me permettre, j'aime bien parce que l'article, alors il y a un article. Et une interview.
Non, il y a même. En fait, il y a un papier de tête, un papier de tête écrit par Guillaume, un petit encadré écrit par moi-même, et une interview réalisée par Guillaume.
Et moi, c'est aussi pour ça que ça m'intéresse, parce que moi, j'aime beaucoup comme écrit Guillaume Volbank, donc en règle générale.
Oui.
Et je me suis dit, ah, en plus, c'est Guillaume qui a écrit, je vais lire.
Il a une très belle plume. Et
l'article est très bien.
Il est drôle, il est léger et profond à la fois, comme comme il convient pour le fist fucking.
Voilà.
D'accord.
Si on parle de fist, c'est parce que un bouquin est paru là en début d'année aux éditions La Découverte, signé par un certain Marco Vidal. Alors en fait, c'est un pseudonyme. Hein, le type est professeur de philosophie et tenait à garder l'anonymat. C'est lui que Guillaume a interviewé. Et donc fist, c'est alors c'est un objet un peu hybride, un peu étrange. Il y a à la fois une dimension historique, donc l'histoire du fist fucking. Le fist fucking, c'est quand même comme le disait un sociologue américain dans les années 80, le fist fucking, c'est la seule pratique sexuelle inventée au XXe siècle.
Au XXe siècle. Ah bon, on faisait pas ça avant.
Eh ben, en tout cas, aucune trace. Mais même chez...
ceux qui faisaient sont plus là pour en parler, il faut dire.
Mais bon. Non, mais même...
Même chez les Romains
alors, oui, ben, ça m'étonne, moi, les Romains.
Par exemple, pour les Romains... Qui ont tout fait. Pour les Romains, on a de... Oui, les Romains sont voilà, très libertins. Sur les, par exemple, on a les fameuses fresques de Pompéi avec tout un tas de pratiques sexuelles représentées, mais pas le fist-fucking. Pas de fist-fucking chez Sade, pas de fist-fucking non plus... je sais pas, chez Sacha Mazoch par exemple, chez ou chez tous les auteurs de d'écrits libertins pornographiques. Non, il semblerait que le fist-fucking ait vraiment été inventé au XXe siècle et notamment au sein de la communauté gay à San Francisco.
Mais et ce livre, qu'est-ce qui démystifie, je dirais, parce que justement on attribue ça à la sexualité homosexuelle masculine.
Voilà.
Mais est-ce vraiment le cas ?
Eh bien non, figure-toi, Gérald. Car c'est pour ça qu'au départ, on voulait intituler l'article « Fist-fucking pour toutes, pour toutes, pour tous et toutes », quoi.
Ouais.
Puisque, effectivement, qu'on soit homme, femme, hétéro, homo, on a tous un rectum et un point, donc on peut tous être fistés ou fistés. Et donc, ça se prête à toutes les configurations.
D'accord.
C'est intéressant. C'est pour le coup, il y a une égalité totale. C'est génial.
Exactement. Voilà. Et c'est ça. C'est en
Nous
ça.
Sommes égaux face au fist.
Et c'est en ça que le fist est une pratique sexuelle subversive, queer, révolutionnaire. Ça inverse les rôles. Il n'y a pas un dominant, un dominé, un actif, un passif, un pénétrant, un pénétré. Alors si, bien sûr, il y a toujours... Mais les rôles sont totalement inverses.
Et à condition de bien se laver les mains, c'est safe, finalement, comme pratique.
Et c'est safe. Alors, il faut y aller... Il y a des précautions, il faut y aller doucement, il faut mettre des gants, il faut mettre des lubrifiants.
Non, mais je veux dire, pas de risque de IST, par exemple, normalement. Faut avoir les mains propres et un gant.
Faut avoir des gants.
Ouais.
Faut se nettoyer sous les ongles.
Même sous les gants, il faut avoir quand même les ongles courts. Parce que si vous avez les ongles de 10 cm, c'est pas idéal.
Ah.
Et puis, non, il faut y aller doucement quand même. Parce que même s'il n'y a pas de risque de. Si vous vous protégez avec un gant, il n'y a pas de risque de d'IST. Mais il peut quand même y avoir des risques. De rupture de la paroi rectale, par exemple. Ouais. Donc c'est important. C'est important d'y aller. Alors notamment pour mon petit encadré, j'ai appelé Bruno, qui est le patron du sex club, le Dog Club, enfin la boutique du plaisir comme il l'appelle, et qui m'a prodigué ses bons conseils, comment fister et se faire fister en toute sécurité. Et notamment, lui, son conseil, c'est d'y aller doucement, de ne pas faire trop de mélange avec les drogues, parce que c'est souvent ça aussi, des plans chem, c'est-à-dire des plans où on prend des substances avant, justement, pour pouvoir supporter la douleur, et d'y aller mollo avec, en insérant des godes, en fait, ou des jouets sexuels, pour élargir progressivement le rectum, et avant d'y aller avec le poing, quoi.
Donc, très bien.
Allez-y, mollo.
Bon, le message est passé. On va laisser la place à Léa maintenant, qui va nous dire notre avenir, votre avenir, mesdames et messieurs. Alors, je ne sais pas où elle lit l'avenir. Nous, apparemment, le rectum, ça nous intéresse. Mais je ne pense pas que ce soit le cas de Léa. Voilà. Donc, plutôt dans la ligne de la main. Tu ne fais pas ligne de la main, toi, Léa ? Non, du tout. Tu crois, toi, ligne de la main ?
Ah oui,
mais tu ne fais pas.
Non, bon.
Si vous voulez tout savoir sur ce que vous allez devenir, écoutez l'émission qui suit. Merci, Léa. Tu vas prendre le relais. Et merci à Romain d'être venu.
Merci, Romain. Merci
pour le numéro 98 d'Hétéroclite. Merci à Lolo d'être là à mes côtés. Merci à Bernardo d'avoir manipulé les manettes avec autant de brio, comme d'habitude. Léa, à vous l'honneur, ma chère. On va pouvoir lancer un générique ou une chanson.
Si c'est une chanson, c'est Soko.
Léa, chante-nous une chanson.
Il n'y a plus le temps de chanson. Par contre, j'ai juste le temps de préciser, pour rester sur le fist, qu'il y a une soirée aux Box Boys le premier samedi de chaque mois qui s'appelle la Playfist.
D'accord.
Voilà.
Très bien. T'as noté, Léa. Hein, bon. Allez, c'est parti. Léa, je te cède la place.
L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.